Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Le couple peut-il résister à l'infidélité? Et sinon, comment survit-il à cette épreuve? Intéressante question que se posent de nombreuses personnes en couple, tout comme les thérapeutes de couple. D'ailleurs, 30% des couples qui commencent une thérapie le font après une ou plusieurs infidélités. L'infidélité, cette épée de Damoclès qui plane au-dessus des couples exclusifs et non exclusifs, oui, l'infidélité peut se trouver aussi dans les couples ouverts, parce que l'infidélité commence là où les limites du contrat de la relation sont dépassées. Et souvent, ce contrat de fidélité n'a pas vraiment été discuté ou n'a pas été explicité. Qu'est-ce que l'infidélité? Est-ce qu'un baiser, un acte pénétratif, de la drague, des sextos, des nudes, un regard? Chaque personne et chaque couple définit ce qu'il ou elle considère comme de l'infidélité. Avec mon invitée Estelle Becquet, psychologue, sexologue et thérapeute de couple, nous allons réfléchir ensemble à cette notion d'infidélité. Nous allons essayer d'aborder des éléments de réponse à ces questions que vous vous posez sûrement. Un couple peut-il survivre à l'infidélité? Combien de temps pour s'en remettre? Que faire pour continuer à avancer? Même si le sujet est difficile, cet épisode se veut comme un outil pour tous les couples. Écoutez-le et débriefez-en ensemble, que vous ayez vécu ou non de l'infidélité. Estelle, bienvenue sur Camille parle sexe.
Merci beaucoup Camille, bonjour, je suis ravie de discuter de tout ça avec toi.
Quand tu m'as proposé ce sujet, je me suis dit oui, parce qu'en tant que thérapeute de couple, quand on accompagne des couples, on est confronté à ce sujet, hein, parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de couples. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as des chiffres et puis peut-être aussi revenir sur cette définition d'infidélité parce que des fois, c'est assez flou aussi.
Alors, je n'ai pas cherché en amont les chiffres. Effectivement, ce serait intéressant de chercher, sachant que sur les sondages, ça se base sur la parole des gens. Et alors déjà, on parle d'infidélité, donc on parle de révélations, de choses qui sont pas admises moralement dans la société. Alors, je serais curieuse aussi de connaître les sondages. Il faudrait prendre les chiffres, j'imagine, avec beaucoup de recul, finalement.
Ouais. Beaucoup de recul parce que tu penses que, du coup, certaines personnes n'oseraient pas dire qu'il y a déjà eu d'infidélité?
Non, je crois que c'est encore très tabou, que c'est encore très jugé. Et donc, tout comme les sondages sur la sexualité en général, par exemple, sont à prendre avec beaucoup de recul, je crois que c'est la même chose au niveau de l'infidélité et du couple en général. Concernant une définition, alors pareil, hein, mais tu l'as très bien expliqué en intro, je crois qu'il y a autant de définitions de l'infidélité que de couple, que de relations même, si on n'est pas obligé de... comme tu l'as très bien dit, ça ne touche pas que les couples conjugaux exclusifs. Hein. Mais il y a cette notion de dépasser un contrat, j'imagine, la plupart du temps qui est tacite. Je parle de contrat implicite, en fait, où on s'imagine qu'on a la même définition, et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça que c'est quand même intéressant, je pense, de pouvoir expliciter cela en début de couple et même régulièrement, parce que c'est un contrat qui peut évoluer, pour essayer d'exprimer les limites de chacun.
Et c'est pour ça, cet épisode, comme je disais en intro, il est intéressant d'écouter en couple parce que, et j'imagine toi aussi, tu vois ça en séance, bah souvent c'est flou. Ou comme tu disais, on s'imagine, on se dit, ah bah non, mais c'est clair, l'infidélité, on sait très bien ce que c'est, il ou elle sait très bien ce que c'est ça. Et puis en fait, quand on questionne l'autre, bah c'était pas du tout la même vision. Et c'est pour ça que c'est important, parce qu'en fait, se baser sur des projections ou sur une représentation de ce que c'est la fidélité, bah en fait, on peut facilement dépasser du coup un contrat. Enfin, on fait un contrat justement pour savoir où on met les pieds et de la clarté aussi.
Tout à fait. Ça permet de mettre de la clarté tout en se disant bien, c'est pas parce qu'il y a un contrat clair qu'on ne va pas le dépasser, parce que nous aussi, on a nos propres limites. Et puis, ça peut arriver et finalement, on se surprend soi-même parce que le désir est trop fort, parce qu'il y a un contexte et finalement, on va dépasser ses propres limites soi-même fixé.
Oui, je pensais pas partir tout de suite sur ça, mais du coup, je vais rebondir parce que souvent on se dit bon, bah, du coup, couple non exclusif, bah, en fait, c'est du coup autant aller vers ça parce que bah, au moins il n'y a pas ce problème-là. Mais en fait, comme tu le dis et comme je le vois même en séance, même les couples qui sont ouverts, qui sont non exclusifs, qui ont souvent, eux, par contre, un contrat assez clair, vont dépasser à tout moment ces limites-là. Pourquoi? Parce que bah, ce qui est excitant, c'est les obstacles, c'est des fois la transgression, c'est ce qui est impossible, c'est ça qui est excitant. Donc, en fait, plus on va essayer de mettre des limites, en fait, plus ça va être excitant de les dépasser.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'il y a des limites qu'on va vouloir les dépasser. Oh, ce serait... bon, je pense que c'est quand même important aussi de pouvoir expliciter les limites de chacun. Mais effectivement, il y a un côté très, très excitant de la transgression. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui restent un petit peu là-dedans. Et puis, au-delà de ça, hein, c'est pas forcément la transgression qui peut être excitante, mais il peut y avoir un contexte. Et puis, finalement, on se fait un petit peu des arrangements avec soi-même. On dépasse les limites en se disant, bon, bah, pour cette fois-ci, et puis finalement, bah, je préfère pas en parler à l'autre parce que je veux pas lui faire du mal. En fait, il y a souvent cette idée-là hein, de préserver l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que souvent, dans la société, on va juger la personne qui trompe de façon très dure, en se disant que c'est un ou une égoïste qui ne pense qu'à lui ou à elle. Et en fait, bah, souvent, il y a cette notion de bah, « je veux préserver l'autre ». J'ai du mal avec peut-être mes limites, mais en tout cas, je veux préserver l'autre.
Préservation. Et du coup, pour donner aussi, là, tu as commencé à donner des exemples. Bien sûr, il y a tout cas de figure, mais peut-être qu'on puisse donner des exemples des couples, des personnes qu'on reçoit en séance vis-à-vis de l'infidélité.
Eh bien, c'est très large et merci de poser cette question parce que ça permet de bien comprendre. C'est vrai qu'on va parler de l'infidélité. En général, on va avoir une notion, un projet de soi-même, à sa propre histoire ou par rapport à notre imagination, mais en fait, l'infidélité, bah, ça peut passer du couple qui est installé, puis il y a un des deux partenaires qui va avoir une occasion un soir, et ça va être, comme on dit, un plan d'un soir avec une relation sexuelle. Et puis dans d'autres couples, ça va être une rencontre amoureuse, un coup de foudre qui va perdurer. Et puis, il va y avoir une liaison qui se met en place. Mais le contexte fait que bah, c'est difficile pour la personne de quitter son ou sa officielle. Et tout ça, ça va engendrer beaucoup de souffrance aussi. Et parfois, des choses plus positives, peut-être qu'on le verra par ailleurs. L'infidélité, effectivement, ça peut être sexuel, mais pas seulement. Il ne faudrait pas résumer l'infidélité à de la sexualité. Puis, à d'autres personnes, les limites, ça va être à partir du moment où on flirte, où on est dans la séduction. Donc, ça peut être ça. En fait, il y a des choses qui sont recherchées dans l'infidélité. Il y a des occasions aussi, des contextes, que ce soit au niveau du couple initial, si on se base par rapport à un couple exclusif et monogame. Donc, les infidélités, elles peuvent être liées au couple initial, aux difficultés qu'on va peut-être rencontrer dans notre couple initial, que ce soit sur l'intimité, sur la relation, sur la communication, sur un manque affectif parfois. Il peut y avoir des choses qui vont être liées à la rencontre, au contexte, et puis des choses qu'on vit par rapport à soi. Et ça, je le vois souvent. Souvent, il y a des infidélités qui vont être mises sur un manque sexuel, par exemple. Et en fait, quand on creuse un petit peu, c'est souvent une façon de se rassurer. Une façon de se dire, est-ce que je peux être encore dans la séduction? Est-ce que je plais encore? J'ai besoin de tester un petit peu ce pouvoir de séduction. Ça fait 20 ans qu'on est en couple et finalement, les choses sont un petit peu acquises. J'ai besoin d'aller confronter un petit peu. Et donc, ça, c'est important de rappeler que la plupart du temps, et j'ai presque envie de dire tout le temps, les infidélités, elles sont pas contre le ou la partenaire, elles sont pour soi.
Oui, ouais. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Et c'est d'ailleurs ce que Esther Perel dit dans son livre et dans ses TED Talk, mais son livre « Je t'aime, je te trompe », que l'infidélité, souvent, n'est pas liée ou ne veut rien dire par rapport à la personne en face, mais c'est surtout, en fait, le sentiment que cela nous donne quand on trompe, et pas dans le sens... c'est plutôt, comme tu disais, c'est... venir nourrir quelque chose, se sentir désiré, se sentir vivant. Et c'est ce sentiment-là qui, en fait, peut pousser à une trahison, à une tromperie.
Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre pour la personne qui a été trompée. Alors, ça ne va pas réparer les choses parce que je pense qu'on va en parler, ça occasionne quand même beaucoup de souffrance. Mais c'est une façon d'avancer aussi et de comprendre que ce n'est pas contre elle.
Oui, on va revenir aussi juste après que je donne aussi quelques exemples de situations cliniques, mais on reviendra sur les conséquences, puis surtout comment se remettre d'une tromperie et si on peut s'en remettre aussi en tant que couple comme ça. Mais là, dans les cas que j'ai en ce moment, j'ai par exemple, on pense souvent aux hommes qui trompent, mais on le sait que maintenant, y a aussi de plus en plus de femmes. Et là, c'est le cas d'une femme qui est maman, et qui vit une double vie depuis une année, parce qu'il y a la passion avec un collègue et puis avec le mari de se rendre compte que finalement, ils n'ont jamais vraiment fait des choses ensemble. Et toute la question de est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester. C'est tout un processus. Et donc, évidemment, là, son compagnon n'est pas au courant. Je la vois elle seule. Il y a le cas aussi où c'est un couple que je vois en séance. Il y en a plusieurs couples comme ça que je vois en séance. Qui viennent justement à la suite d'infidélité. Comme je disais, ils sont 30% selon les études. Et là, c'est soit l'infidélité de... Généralement, c'est un qui a trompé l'autre, des fois plusieurs fois. Et ça peut remonter à plusieurs années, mais ça fait encore... c'est encore aussi intense. C'est comme si ça s'était passé hier. Et pour ce couple, il y a de la difficulté. Pour ces couples, il y a de la difficulté à aller de l'avant, à mettre des choses en place avec toujours cette sensation que... on revient en arrière et on remet ce qui n'allait pas, etc. Et donc là, ça serait une question intéressante qu'on réfléchisse ensemble justement à quoi faire, comment s'en remettre. Il y a ce couple lesbien où là, il y a eu des infidélités des deux côtés. Donc là, c'est plutôt le sentiment de revanche aussi, mais en même temps, on a envie de rester ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre notre relation ou pas? Et puis, il y a cet homme que je consulte aussi qui, lui, est en relation non exclusive avec sa femme. Et ça fait des années, ça fonctionne super bien. Sauf qu'il a dépassé la limite du contrat qui était que c'était OK d'avoir des relations sexuelles, dans ce cas-là, des relations sexuelles avec d'autres partenaires, Mais quand ils le font ensemble, et là, bah, ils commencent à virtuellement avoir, on appelle ça l'infidélité virtuelle, mais à contacter d'autres personnes et donc à rompre un petit peu ce contrat. Et tu parlais que ce n'est pas forcément du sexe, et il peut y avoir plusieurs types d'infidélité. Est-ce que justement l'infidélité virtuelle, c'est quelque chose que tu entends aussi en séance?
Oui, tout à fait. Alors déjà, tes exemples rejoignent les miens hein, de Maxinic. Donc, je pense que c'est assez représentatif, effectivement, des types d'infidélité qu'on peut retrouver. L'infidélité virtuelle, effectivement, je la vois très souvent et j'ai pu la constater durant les confinements. Ça a explosé, en fait, avec les confinements durant la période Covid. C'était vraiment un moyen de pouvoir entrer en contact avec l'autre, d'être dans la séduction, finalement.
De donc, s'échapper.
Eh oui. Donc, l'infidélité virtuelle, en plus, elle a cette problématique qu'elle est encore assez floue. Et finalement, elle peut laisser penser à la personne que bah, finalement, ce n'est pas vraiment l'infidélité, puisque ça reste dans le cadre du virtuel. Et c'est toute la problématique des couples qui n'ont pas vraiment posé les bases. Mais c'est où est-ce qu'on met la limite? Et effectivement, bah, dernièrement, j'ai ce jeune papa qui est venu me voir et qui a passé le cap. Alors lui, je le suivais pour une addiction au porno. Et il a passé le cap au-dessus, c'est-à-dire qu'il a commencé à rentrer en contact avec des personnes. Et là, sa compagne, elle l'a très, très mal pris, parce qu'elle l'a appris, elle l'a découvert. Elle l'a très mal pris parce que pour elle, ça rentrait dans quelque chose au-delà du porno, en fait. Jusque-là, elle comprenait le porno, pour elle, c'était l'auto-érotisme, on en avait parlé, c'était tout à fait OK, finalement. Mais le fait d'être en interaction avec d'autres personnes, ça devenait compliqué. Donc oui, les infidélités virtuelles, ça existe.
Oui, et puis surtout qu'on passe de plus en plus de temps hein, sur nos smartphones ou justement dans ces mondes virtuels, mais qui sont en fait aussi la réalité. Comme tu disais, il y a les sextos, il y a s'envoyer des photos, des nudes, il y a contacter des camgirls ou avoir du sexe tarifé en ligne. Il y a même des fois du porno, même pour certaines partenaires, regarder du porno, c'est déjà de l'infidélité. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'échanger en tant que couple. Et comment on accompagne les couples pour qui, justement, quand ils viennent discuter de ce contrat ou de cette notion d'infidélité, n'ont pas les mêmes. C'est-à-dire, imaginons, je ne sais pas, pour... une personne, l'infidélité, se flirter, s'embrasser, c'est OK, c'est pas de l'infidélité, alors que pour l'autre, ça l'est déjà. Comment un couple peut naviguer avec ça?
C'est assez problématique, effectivement. J'ai pas de réponse universelle là-dessus. L'idée, c'est de co-construire des solutions, comme la plupart du temps en couple et en thérapie de couple. Mais on va... déjà, ouvrir le dialogue là-dessus, essayer de mettre du sens aussi sur ces limites. Parce que c'est bien de mettre des limites, mais quelles sont ça, en fait? D'où elles viennent, ces limites? Est-ce que c'est parce qu'on a toujours pensé que c'était comme ça? Ou est-ce que parce que ça fait sens? Si, par exemple, la limite, ça va être l'acte sexuel, ou pourquoi? Qu'est-ce que ça a comme symbole pour vous, l'acte sexuel? Qu'est-ce que ça vient dire de vous? Donc ça va être important de creuser un petit peu et puis d'arriver à chacun poser ses limites. Et est-ce que pour le couple, c'est important que chacun soit au même niveau ou est-ce que c'est OK d'avoir des limites différentes? Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Ce qui fonctionne, c'est ce qui convient au couple, ce qui permet de trouver un accord commun, finalement.
Et si le couple a du mal à trouver un accord ou à avoir des réflexions là-dessus ou une communication apaisée, alors on recommande de pouvoir en discuter avec une tierce personne, des thérapeutes, pour justement co-construire du coup ensemble, arriver à trouver quelque chose qui fait sens aussi pour les deux. Parce que sinon, en fait, c'est pas vivable du coup aussi de pas se mettre d'accord sur les mêmes choses, surtout peut-être sur ce sujet-là d'infidélité, du coup ce sentiment... parce qu'on parlait hein, aussi des conséquences, mais conséquences d'une tromperie ou de découverte d'infidélité. Qu'est-ce que tu constates? Il y a le manque de confiance, du coup, en partenaire, mais à soi-même aussi. Il y a quoi d'autre que tu remarques chez, chez la découverte?
Les conséquences, tu veux dire, sur le couple? Alors, on peut parler de conséquences négatives, mais parfois, et je sais que c'est un sujet un petit peu sensible, des conséquences positives, peut-être qu'on va en parler. Au niveau des conséquences, oui, il y a cette perte de confiance dans le partenaire, cette perte de confiance en soi. Ça peut mettre de la distance, ça peut créer une énorme méfiance chez là où le partenaire qui a été trompé. Avec de la surveillance, avec un besoin d'être systématiquement rassuré. Ça peut avoir un impact sur la vie sexuelle parce que c'est difficile d'être à la fois dans un, enfin, par la suite dans un rapport si intime avec l'autre quand on a pensé que ben, il n'y avait que moi. Donc, ça peut avoir effectivement des conséquences quand même assez négatives.
Oui, et sur la confiance, dans les questions que j'ai demandées du coup à l'audience Instagram par rapport à ce sujet-là, alors il y avait trois questions et du coup je vais les prendre comme ça. Est-ce que déjà par rapport à une tromperie, pour aller de l'avant, est-ce que le pardon, selon toi, est nécessaire?
Oui, je pense que le pardon est nécessaire. En revanche, on se trompe souvent sur ce que c'est le pardon. Le pardon, ce n'est pas passer l'éponge, effacer ce qui s'est passé, faire comme si rien ne s'était passé. Le pardon, c'est avant tout, moi ce que j'explique, c'est avant tout être en paix avec soi-même, pouvoir faire avec l'événement. Donc, il y a presque un travail très personnel pour la personne qui a été trompée et ça paraît souvent très injuste finalement, mais il y a un gros travail là-dessus. Donc oui, ça me paraît nécessaire parce que tant que si le pardon n'est pas entré en jeu après une tromperie et qu'on décide malgré tout de rester avec la personne, c'est quelque chose qui va systématiquement revenir. C'est quelque chose qu'on va tout le temps reprocher à la personne. Mais c'est OK de ne pas être, de sentir qu'on ne peut pas dépasser cela et qu'on ne peut pas être dans le pardon. En fait, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre des couples et on peut se sentir incapable de dépasser l'infidélité.
Et c'est intéressant quand tu disais c'est injuste parce que c'est vrai, ça je peux le voir. J'ai des cas là, de partenaires femmes qui ont été trompées par leur partenaire homme et qui disent « Oui, ok, alors du coup, donc, j'ai pardonné. En gros, oui, je ne vais pas oublier, mais bon, voilà. Et en même temps, bah, je dois vivre avec toutes ces émotions-là. C'est si injuste, c'est une double peine. J'ai été trompée et en plus, je dois travailler sur plein de choses, tout ce qui ça vient me chambouler. Alors que lui, c'est comme si rien ne s'était passé, tout va bien et il a envie de sexe et moi, je devrais être celle qui doit travailler sur moi pour avoir envie à nouveau.
Eh oui, c'est souvent comme ça hein, que ces personnes peuvent vivre les choses. Alors, c'est comme si l'autre, rien ne s'était passé, c'est pas vrai non plus parce que bien souvent, encore une fois, je vais peut-être faire des généralités, hein, mais bah, la personne qui a trompé est souvent très en souffrance, souvent elle fait des efforts surhumains pour essayer de montrer qu'elle est digne de confiance. Ça peut être très mal vécu aussi de dire, mais en fait, quoi que je fasse, tu ne me fais plus confiance. Donc, je pense que ça touche les deux. Mais effectivement, ça peut être très difficile à vivre de dire, bah, déjà, j'ai été trompée. Et en plus, il faut que je fasse tout ce travail de pardon, d'avancer, d'apprendre à refaire confiance. Ça peut être lourd en tout.
Oui, lourd. Et il y avait une autre personne qui disait, bah, même si je pense m'en être remis, bah, des fois, en fait, tout peut remonter à la surface quand bah, y a des triggers, quand par exemple, bah, y a un soir, j'ai pas de réponse au téléphone et là, tout me revient et j'ai des flashs et je me dis, ça y est, il est retourné aller voir ailleurs. Comment les personnes peuvent naviguer avec ça, avec ces genres de flashbacks où on revient, hein, sûrement, en plus sur le thème de la confiance, hein, Mais du coup, ça revient sans cesse. Et même si on essaye d'aller de l'avant, même si ces personnes essayent de pardonner, de mettre des choses en place, c'est comme s'il y avait toujours un rappel de ce qui s'était passé.
Ouais, tu as raison. Dans ces cas-là, je pense que la thérapie individuelle me semble indispensable parce qu'on est presque dans quelque chose un peu traumatique, en fait, où il va y avoir des choses qui vont réactiver. Souvent, quand on creuse un petit peu, ça prend ses sources dans des problématiques d'attachement. Souvent, la personne a déjà vécu des abandons, des choses comme ça de son côté. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il y a peut-être un travail à faire. On parlait de perte de confiance en soi, mais la confiance en soi, alors effectivement, c'est voilà, se sentir, par exemple, assez attirant, assez sexy ou aimable de façon générale pour sa partenaire dans ces cas-là. Mais ça peut être aussi je me fais confiance pour me rassurer. Et souvent, la personne va chercher sans cesse la réassurance par son ou sa partenaire. Mais l'idée aussi, c'est d'apprendre à savoir se rassurer soi-même. Et en ça, je pense que dans ces cas-là, quand une personne va être sans cesse dans ses grosses angoisses réactivées par des événements, eh bien, je crois que là, la psychothérapie individuelle est vraiment indiquée.
Oui, ça me faisait penser à ça aussi, effectivement, une thérapie individuelle et peut-être voire même de l'hypnose, le MDR, pour que ces réponses, ces flashs soient moins intenses, voire puissent être apaisées pour justement aller de l'avant, garder cette confiance. Et d'ailleurs, il y a deux choses par rapport à la confiance aussi que je veux dire. Et ça peut être dur dans ces cas aussi de tromperie, mais faire confiance, c'est un choix, c'est un véritable choix. C'est-à-dire se dire, je veux continuer à être dans cette relation, même après une infidélité. Il n'y a pas photo, être en couple, ça demande une confiance. Et donc, faire confiance, c'est un choix. C'est aussi un choix des deux, hein, de montrer vraiment aussi ce que l'autre peut faire pour redonner confiance. Mais ça part aussi de soi. Et une autre chose par rapport à la confiance, ça c'est Rachel Bosman qui dit ça. La confiance est une relation pleine d'assurance avec l'inconnu. Et donc, dans cette idée qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout savoir, que c'est souvent l'inconnu qui est inquiétant, qui nous fait nous mettre en crise d'angoisse ou d'anxiété. Mais la confiance, c'est une relation pleine d'assurance avec l'inconnu. J'ai confiance, même dans l'inconnu, même dans ce que je ne peux pas contrôler.
Je ne peux pas être plus d'accord avec toi, Camille, par rapport à ce terme de confiance. Effectivement, aimer, être en couple, c'est prendre un risque. Il y a toujours ce risque que l'un ou l'autre même tombe follement amoureux de quelqu'un d'autre. Par exemple, ce n'est pas quelque chose qu'on peut remettre en question, ce sont des choses qui arrivent. Donc, la confiance, c'est aussi accepter ce risque. Et c'est quelque chose qu'on donne, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne, la confiance, c'est quelque chose qu'on donne et on accepte.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tout ce risque.
Et c'est pas évident, hein, ce qu'on dit, mais évidemment, c'est pas évident. Et j'aime bien ce que tu disais, la confiance, c'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est quelque chose qu'on donne. Et il y a des fois aussi des personnes qui peuvent se taper sur la main en se disant, bah voilà, j'ai été bête, j'ai donné ma confiance, toute ma confiance, et voilà comment on me remercie, bah je ferai plus confiance. Et on revient aussi à tout ce processus peut-être aussi individuel qui est nécessaire pour déjà retrouver confiance, peut-être revoir aussi le style d'attachement, comme tu disais, pour avoir un style d'attachement plus sécure peut-être, et puis pour retrouver cette estime de soi et cette confiance. Là, on parle de la personne qui a été trompée, mais j'imagine, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait, et peut-être les personnes qui nous écoutent aussi, c'est « Ok, et maintenant, quel travail individuel peut faire la personne qui a trompé ?»
Alors, mais tout dépend de ce qui a travaillé, finalement. Est-ce que c'est quelque chose de régulier ? Est-ce qu'il y a une espèce d'addiction, entre guillemets, avec des tromperies régulières ? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ? Donc, tout dépend du travail qu'il y a à faire. Après, si tu entends un travail par rapport au couple, effectivement, l'idée quand même, ça va être, si on repart sur quelque chose d'exclusif, c'est d'apprendre à rassurer sa partenaire, se recentrer peut-être sur son couple, peut-être comprendre ce qu'il ou elle a été cherché ailleurs. Est-ce que c'était, comme on disait tout à l'heure, ce besoin de séduire ? Est-ce qu'il y avait un problème au niveau de la sexualité ? Est-ce que c'était lié à quelque chose qui manquait dans le couple ? Est-ce que c'était tout simplement parce que c'était quelqu'un d'autre ? Donc ça va être important de comprendre ce qui a été recherché. Puis, ensuite, je crois que c'est l'occasion d'un travail de couple. Parce que, pour moi, toute crise, c'est l'occasion de réinventer le couple. Ça veut pas dire qu'on révolutionne tout, hein. Juste de se poser des questions. On en est où? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut tous les deux? C'est quoi le projet? Et comment on y arrive? Et là, c'est une vraie occasion de travail. Toute crise est une vraie occasion de travail.
C'est vrai, toute crise est vraiment une source pour venir mettre des mots sur peut-être des non-dits, sur des choses qui n'allaient pas et qui méritent d'être ajustées. Et d'ailleurs, dans ce processus de guérison de l'infidélité, encore une fois, Esther Perel cite trois processus, trois étapes. La première, c'est la crise. Hein. On vient de découvrir ça ou d'apprendre qu'il y a une infidélité, donc c'est la crise. Et là, il faut pouvoir... Là, peut-être en tant que couple, mais peut-être aussi avec l'aide de thérapeute, pouvoir accueillir toutes les émotions qui arrivent, vraiment sans jugement, pouvoir accueillir tout ce qui arrive, que ce soit pour l'un, pour l'autre, pour l'une, pour l'autre. La deuxième étape, c'est la recherche de sens. Hein. Souvent, on a envie de démêler le pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui nous a amené à, qu'est-ce qui m'a poussé à, et le rôle que chacun et chacune a joué, finalement. Que ce soit la personne qui a trompé, la personne qui a été trompée, quel rôle chacun a joué dans cette histoire qui est une histoire du couple, donc qui touche les deux membres du couple. Et puis, dans le troisième point, et tu parlais ça de projet, c'est effectivement la projection dans l'avenir. Ça, c'est vraiment se dire qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, est-ce qu'on continue ensemble ou séparément ?
Tout à fait. C'est vraiment l'idée. Alors, est-ce qu'on continue ensemble ou séparément ? Et si on continue ensemble, comment ? Parce que si on revient comme avant, ça risque de se reproduire finalement. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette crise ? Il y a une métaphore que j'utilise beaucoup, c'est la métaphore des vases japonais. Je crois que ça s'appelle les kintsugi, tu vois ?
Ouais, je vois ce que c'est, je me souviens plus du nom. Mais...
Alors les kintsugi, je crois. Ce sont des vases cassés qu'on va réparer avec des dorures, avec une laque dorée finalement. L'idée, c'est que le vase est encore plus beau une fois qu'il a été cassé et réparé. Et pour moi, c'est ça l'idée d'une crise. Effectivement, dans certains cas, ce ne sera pas possible. Et je l'explique d'ailleurs toujours en accompagnement de couple. Parfois, une thérapie de couple, l'idée, c'est un accompagnement vers une rupture parce que la rupture, c'est la meilleure solution qu'a trouvé le couple pour que chacun aille bien ou pas trop mal, en tout cas. Mais parfois, on va essayer de sublimer les choses en tout cas, d'en faire quelque chose de cette crise, d'en apprendre quelque chose, de renforcer ce couple. Et effectivement, ces vases japonais, ils deviennent beaucoup plus beaux une fois qu'ils ont été réparés. C'est un petit peu l'idée, alors. C'est, là, c'est très illusoire, très, très beau. Dans les faits, c'est beaucoup plus difficile. Mais ben voilà, l'idée, c'est peut-être de renégocier le contrat de couple, de parler des limites, que chacun puisse au moins les exprimer, puis d'avancer ensemble.
Oui, parce qu'il y avait une question qui revenait souvent, mais tu as un petit peu répondu, c'est est-ce qu'on se remet vraiment d'une infidélité? Si on décide de... Même si on décide de se séparer, parce que des fois, on peut se dire, bah, la séparation, au moins, allez, je recommence à zéro. Mais même si on se sépare et qu'on a vécu une infidélité, il y aura peut-être toujours cette peur, soit d'être trompé, puisqu'on a déjà été trompé dans le passé, ou soit de tromper, puisqu'on a déjà trompé dans le passé aussi. D'où cette importance, comme tu disais, à faire ce travail-là pour essayer de comprendre, pour essayer de voir bah, qu'est-ce qui m'a poussé à, si c'est un manque de confiance en moi ou un manque de confiance en l'amour, de pouvoir travailler ça, si j'ai ce sentiment, ce besoin d'être désiré, bah, des fois même, peu importe, s'il y a du désir dans la relation, des fois certaines personnes ont cette envie d'être désirée par d'autres personnes aussi. Et des fois, c'est aussi être honnête avec ça dans sa relation, de dire, bah, moi, en fait, ce qui me nourrit, c'est de... Et je prends cet exemple-là parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une séance, mais cette personne, et là, c'était en l'occurrence, quoi qu'il y a les femmes et les hommes, hein, mais cette femme qui disait, ben moi, en fait, j'aime mon mari de tout mon cœur, notre sexualité, elle est épanouissante. Hein. Des fois, on a cette croyance, en plus, que l'infidélité arrive parce qu'il n'y a pas de sexualité ou que ce ne soit pas épanouissant, mais ce n'est pas forcément le cas. Là, il y a une sexualité épanouissante, il y a de l'amour, une bonne communication, mais elle se sent encore plus vivante quand bah, elle sent les regards des autres, quand elle a des petites discussions, quand on envoie des petits messages, sans forcément, j'avais envie de dire, aller plus loin. Mais en fait, c'est parce qu'on a cette définition que bah, de franchir la limite, c'est un acte physique, un contact corporel, alors que sûrement pour son mari, c'est déjà trop loin, mais qu'elle n'a pas besoin de contact physique. Par contre, c'est cette attente, cette anticipation, ce flirt qui la nourrit. Du coup, aussi, des fois, pour les couples vis-à-vis de, ou même les individus, quand il y a tout cet accompagnement, c'est des fois de pouvoir l'exprimer à l'autre, en fait, de dire, bah, moi, il y a ça qui me nourrit, qu'est-ce qu'on en fait, comment tu te sens vis-à-vis de ça, en sachant que, parce qu'on pourrait très bien dire, bon, bah, si l'autre interdit, elle arrête, mais on sait très bien que ça ne va pas être le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça aussi? Et est-ce que les personnes peuvent mettre aussi un peu plus d'authenticité? Et c'est très dur, hein, mais d'authenticité et d'honnêteté par rapport à qui ils sont et ce qu'ils veulent dans leur vie aussi.
Eh oui, je pense que dans l'idéal, c'est un chemin vers lequel aller. Alors déjà, l'expression des émotions, des ressentis dans le couple, là, on essaye vraiment de travailler dessus, ça me paraît très important, c'est encore difficile. Mais alors, sur ces questions-là, ça reste quand même très tabou, hein, dans la société. Ça resterait à vous de dire bah, je prends du plaisir à être regardée par d'autres partenaires. On est quand même sur des schémas sociétaux très exclusifs du couple conjugal. Moi, ça me paraît essentiel de pouvoir communiquer cette authenticité. On peut avoir peur aussi de blesser l'autre. Encore une fois, on est sur des schémas où on imagine qu'on peut complètement combler l'autre ou qu'on peut être complètement comblé par l'autre. Alors que dans la réalité, c'est quand même bien plus difficile. Et comme tu le dis, bah, chez certaines personnes, on peut, ça peut donner cette impression d'être vivant, d'être dans la séduction dès qu'il y a d'autres regards. Et juste parce que ce sont d'autres personnes que son conjoint ou sa conjointe.
Oui, c'est vrai. Des fois, les personnes se retiennent de dire les choses telles qu'elles les vivent, telles qu'elles le sentent, leurs désirs. Par peur de blesser l'autre. Et au tout début, tu parlais de vouloir préserver l'autre. Et je crois que l'erreur, c'est de vouloir préserver l'autre tout en niant qui on est ou ce qu'on souhaite. Et donc, on va passer par des fois de l'infidélité en se disant, bah, je vais le préserver ou je vais pas dire exactement ce que je veux parce que je veux pas blesser l'autre. Mais comme je suis comme ça, au bout d'un moment, ça va quand même poser des difficultés.
Tout à fait. Et du coup, c'est contre-productif. Alors qu'on pourrait imaginer cette authenticité d'exprimer, bon, voilà, j'aurais besoin peut-être d'un peu plus d'intensité ou j'ai besoin peut-être plus d'affection. Et finalement, le fait d'avoir pu exprimer les choses, dans l'idéal, ça permet de mettre en place des choses en couple, que le conjoint, la conjointe comprenne qu'il y a peut-être un manque à combler, et donc d'éviter des passages à l'acte.
Et là, je m'adresse du coup à la thérapeute de couple que tu es. Imaginons, voilà, un couple vient de découvrir une infidélité, que ce soit l'un, l'une, l'autre, les deux, et se disent, bah là, ça va pas, on est en crise, ça va pas, on va consulter du coup un ou une thérapeute de couple. Imaginons que ce soit toi. Qu'est-ce qui peut être proposé par ce couple qui arrive en état de crise? Le cheminement, même si je sais que le cheminement est très personnel, etc., mais peut-être un exemple d'un cheminement, tu vois, que tu aurais en tête. Oui. Pour que les gens sachent, en tous les cas, ça ne correspondra peut-être pas à votre cheminement, mais ça vous donne une idée de ce que ça peut être.
Alors, situation très, très fréquente, hein, en tant que thérapeute de couple, ce sont des couples que je reçois très fréquemment. Pas forcément immédiatement après l'infidélité, ça peut être quelques temps après quand on sent que ça bloque. Ce que je vais déjà proposer, c'est un espace où je ne vais pas juger les personnes. Et ça, ça paraît simple, mais en fait, c'est assez énorme. Le fait que les deux personnes se sentent accueillies par rapport à leur histoire, qu'il n'y a pas de jugement de ma part sur la personne qui a trompé, qui a brisé le contrat. Je ne vais pas avoir un jugement moral, mais non plus face à la personne qui a été trompée. Parce que souvent aussi, elle peut culpabiliser en se disant je n'ai pas été assez comme ci ou assez comme ça. Donc, tout simplement, déjà, ça va leur offrir cet espace bienveillant. Ça, c'est difficile parce que souvent, dans l'entourage, c'est difficile d'en parler quand on a des amis en commun, à la famille. Forcément, on a peur du jugement. Donc, déjà, première étape. Puis ensuite, ça va leur permettre d'ouvrir un espace où on va pouvoir exprimer les émotions, les ressentis de chacun. Et le fait que ce soit dans le cadre de la thérapie avec un tiers, ça va quand même limiter les débordements. Et ça me paraît important. Parce que dans le cadre de l'intimité à la maison, quelquefois ça déborde trop ou c'est difficile d'entendre les ressentis de l'autre. Donc, le rôle du thérapeute ou de la thérapeute de couple dans ces moments-là, c'est aussi d'accompagner ces ressentis-là, de les entendre et de faciliter la communication. Donc, déjà ça me paraît quand même assez important. Ensuite, effectivement, je pense qu'on va pouvoir travailler sur le sens de tout ça. Voilà. Où est-ce que vous en étiez au niveau de votre couple? Est-ce que c'était un moment particulier dans votre vie? Est-ce que c'était, après une naissance, on va revenir sur l'histoire du couple aussi. Est-ce que c'était un moment par rapport au travail? Comment ça se passait avant? Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, le contexte aussi. Et puis, les contextes individuels, il y a le contexte de couple, puisque moi, quand j'explique, quand je reçois un couple, je reçois trois personnes. Donc je reçois les deux personnes qui la composent, et puis je reçois le couple, la relation. Donc, on va parler du couple, puis on va parler des deux personnes. On va essayer de mettre un peu de sens pour que chacun comprenne un petit peu ce qui a pu se passer, toujours sans jugement par rapport à ça. Et puis, on va essayer d'avancer sur ma question d'en fait aujourd'hui. Où en est la confiance? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les symptômes, en fait? C'est quoi les conséquences? Et puis, on va même essayer de mettre en évidence parfois des conséquences. C'est très délicat ce que je vais dire, mais parfois des conséquences positives. En fait, on s'est rendu compte que notre sexualité, elle a été relancée, en fait. Elle a mis un coup de boost. Alors, comment ça se fait? Est-ce qu'on peut comprendre un petit peu ce qui s'est joué là-dessus? Et c'est des choses, j'en parle parce que c'est pas anecdotique. On le voit régulièrement. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Et puis, on va cheminer jusqu'à aller on a cheminé jusqu'à aller à ce projet dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en fait? Vers où on va? Est-ce que on est OK tous les deux pour continuer ensemble malgré ce qui s'est passé? Ou est-ce que nos chemins vont se séparer là parce que c'est trop compliqué, ça a laissé trop de traces, il y a trop de rancœur? Ou alors on continue et comment? À ce moment-là, peut-être qu'on va négocier le contrat. Je me méfie aussi des solutions. On va ouvrir notre couple, ça va être une solution parfaite. Alors, chez ce temps, ça existe, mais c'est attention avec ça. Il faut que ce soit une envie, il faut que ce soit une philosophie de vie. Et ça ne convient pas à tout le monde et ça ne peut pas, je pense pas, apparaître comme une solution.
Oui, parce qu'on revient déjà à ça. C'est vrai que pour la non-monogamie, ça requiert une situation d'égalité et de confiance. Donc, quand on part, et des fois on peut le voir, il y a une crise d'infidélité, on va se dire, ou l'une des personnes, souvent la personne qui est à tromper et aller voir ailleurs, va dire peut-être que c'est ça qui nous faut en fait. Mais tant qu'il n'y a pas la confiance qui a été restaurée, c'est assez quand même bancal. Et surtout, des fois, ce n'est pas le souhait des deux non plus. Mais il faut bien comprendre aussi que ça peut être une option, mais il va falloir qu'il y ait pas mal de conditions là-dessus. Et déjà, tout ce travail d'infidélité travaillé. Mais en fait, c'est aussi de voir, quand tu parlais de ce projet, c'est vraiment voir toutes les options envisageables aussi. Bien sûr, donc, il y a l'option séparation, bon, ça, on va le mettre de côté, mais dans le cas où, OK, on décide de rester ensemble. Et donc, ce n'est pas aussi, des fois, de mettre sous le tapis et de dire, on va faire comme si ça n'avait pas existé, c'est un non-événement et on reprend comme avant. Parce que si on n'a pas traité tout ça, ça risque de revenir. Ou j'imagine, dans le cas de couple où il y a vraiment un écart de libido, pour la personne qui a le plus de sexualité, ça ne va pas non plus être une solution de se dire OK, du coup, je n'aurai plus de sexualité et on va essayer de rester ensemble comme ça. Donc, quand on parle de ça peut être une option, les couples ouverts, ce n'est pas une option de facilité du tout. Et des fois, il n'y a pas que ça comme solution non plus. Mais ça va être toute la délicatesse quand justement encore plus au niveau de la sexualité, il y a encore des couacs où on se rend compte que l'écart de libido est grand, voire il n'a même pas besoin d'être grand, mais il y a des difficultés et qu'on ne va ni forcer l'un à avoir des rapports sexuels, l'un ou l'autre, et on va ni faire que l'autre se sacrifie et sacrifie sa sexualité et va baisser sa libido. Donc, ce n'est pas toujours évident aussi en tant que thérapeute. Hein. Je pense que tu me rejoins là-dessus de naviguer avec tout ça, et alors encore moins pour les couples.
Je te rejoins là-dessus, c'est très, très complexe. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces couples dans leur cheminement et peut-être de travailler sur les problématiques qui étaient liées à cet écart de libido, par exemple. J'en profite pour dire, parfois, c'est pas qu'une histoire de sexe, en fait. Il y a certaines personnes qui recherchent des rapports sexuels, mais en fait, quand on creuse un peu, elles recherchent une intimité, un moment avec l'autre, un contact. Et donc, peut-être qu'il y a de ça derrière. Donc, c'est tout ce travail qu'on va pouvoir faire avec les couples après une infidélité. Qu'est-ce qui clochait finalement? Qu'est-ce qui n'allait pas vraiment? Et est-ce que ça peut convenir à l'autre personne aussi de travailler là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution concrète? Est-ce qu'on se réserve plus de moments ensemble ou moins de moments ensemble aussi? Parce que ça peut être aussi une solution. C'est l'infidélité parfois, c'est aller chercher un peu d'air. Donc, est-ce qu'on n'a pas besoin chacun un moment de son côté? On travaille sur du concret, en fait.
Merci d'avoir d'ajouter tout ça, parce que c'est très pertinent et je pense que ça fait sens pour les couples ou les personnes qui nous écoutent. Encore une fois, il y a des choses, il y a des solutions qui existent, il y a des choses à venir, il y a tellement de choses à venir travailler. Des fois, ça peut sembler comme une montagne, mais en fait, c'est plutôt positif de se dire que bah, si il y a plein de choses qui peuvent être travaillées, c'est-à-dire qu'il y a des solutions, et donc il va falloir des fois creuser un peu de partout pour des fois dénouer des nœuds qu'il peut y avoir à certains endroits pour pouvoir avancer aussi. Du coup, j'ai une question pour toi, une dernière question par rapport aux personnes qui écoutent cet épisode. Si elles devaient retenir qu'une chose de tout ce qu'on a pu échanger ou même pas quelque chose que tu voudrais ajouter, un message fort, qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Je ne l'avais pas préparé, mais c'est bien, je l'ai fait spontanément. Si on peut retenir quand même quelque chose qui me semble important par rapport à notre échange et qui me semble important dans les couples et peut-être dans la vie en général, c'est qu'on ne peut pas tout anticiper non plus. Ok, c'est super important, ça me semble très primordial d'être dans la communication, peut-être de clarifier ses projets, ses limites au niveau du couple. Mais en même temps, oui, il y a cette dimension risque. On ne peut pas tout contrôler. Et la confiance, c'est aussi naviguer avec ce risque. C'est accepter de donner cette confiance un petit peu aveugle en l'autre parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a un projet commun.
Merci Estelle. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, on peut me retrouver à Cannes où j'ai un cabinet en libéral. J'interviens également, je fais un peu de promo parce que c'est une association qui me tient à cœur, à la Ligue contre le cancer à Antibes, où on propose des accompagnements pour les personnes malades ou leurs conjoints. Donc, je propose des séances de psychologie, mais aussi de sexologie. Voilà, et puis à mon cabinet à Cannes pour les couples en individuel également. Et puis on peut me retrouver sur Instagram, sur mon compte sexo-théorie avec un Y.
Super, je mettrai tout ça dans les notes. Alors n'hésitez pas à aller contacter Estelle ou si vous êtes justement à Cannes, allez consulter que vous soyez seul et ou en couple. Que ce soit sur les notions d'infidélité ou pas, hein, non plus, mais voilà, de ne pas hésiter, ça c'est vraiment aussi le message fort de cet épisode, de savoir que vous n'êtes pas seul si vous vivez des infidélités, que c'est complexe, que c'est difficile, que ça peut vous mettre en colère, que c'est énervant, que ça remet plein de choses en question, mais de ne pas hésiter à vous faire accompagner et de pouvoir trouver du sens, avoir un pas vers l'avenir aussi, que ce soit seul et en couple, vis-à-vis de cette situation.
Merci beaucoup, Claire.
Super. Et merci beaucoup, Estelle, pour ton temps et tout ce que tu nous as partagé.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Ce que je retiens de mon échange avec Estelle sur l'infidélité, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler, que faire confiance, c'est un véritable choix. D'ailleurs, j'ai bien aimé cette citation que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps au détour justement d'une conversation à ce sujet de recherche d'informations. Je vais vous la redonner, comme ça vous l'avez en tête. C'est de Rachel Botsman. La confiance est une relation pleine d'assurance avec l'inconnu. Que si vous traversez cette crise de l'infidélité, que ce soit appris hier, il y a 3 ans, voire 10 ans, et que c'est toujours aussi vif, on vous recommande, Estelle et moi, évidemment, de consulter des thérapeutes, en couple, évidemment, mais également en individuel, quand il y a des choses à travailler. Généralement, il y a toujours des choses à travailler en individuel et en couple. Si vous vivez cette situation, vous l'avez traversée, je suis de tout cœur avec vous. C'est malheureusement, heureusement, des fois il y a des impacts positifs aussi, mais c'est la vie. Ça fait partie de la vie aussi. Je ne dis pas que tous les couples vont traverser ça, mais c'est une possibilité. Enfin, si ce podcast vous plaît, vous trouvez des épisodes intéressants, pertinents, que même vous en partagez avec vos amis. D'ailleurs, si c'est le cas, merci de me dire que grâce à vous, il y a votre ami qui écoute les podcasts, que ces podcasts vous aident dans vos pratiques. Si vous êtes un ou une professionnelle de santé, voire thérapeute de couple, ça me touche toujours vos retours, donc n'hésitez pas à me les faire, hein, évidemment. que ce soit sur Instagram, Kaby Parle Sexe, ou en donnant des avis et des étoiles sur les votre plateforme d'écoute, Spotify et Apple Podcast. D'ailleurs, merci beaucoup. Sur Spotify, vous êtes au taquet, en tout cas. Sur Spotify, là, les étoiles, ça fait plaisir. Sur Apple Podcast, c'est encore un petit peu timide, mais je sais que vous êtes une majorité à écouter sur Spotify. Et je sais que vous êtes aussi à écouter sur d'autres plateformes qui ne proposent pas ça. Donc, merci, en tout cas, de vos écoutes, de vos échanges. Et je vous dis à tout bientôt. Et en attendant, je vous souhaite de belles expériences en Chine.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.